heureux de vous retrouver en ce lundi 16 avril pour cette 20e émission d'Oxyfoot, déjà 20, la seule émission radio qui vous parle du football amateur en Occitanie. Et aujourd'hui avec moi autour de la table, comme d'habitude, le taulier de cette émission, Quentin Marais. Salut Quentin.
Salut Romain, salut tout le monde.
En forme?
Toujours, toujours.
Toujours, et oui, toujours. Et toujours là aussi, Léo Moulinier, en face de moi.
Salut, salut Romain, bonjour tout le monde, ça va bien?
Ça va très bien. Xavier, chaque semaine on peut retrouver les podcasts de chaque émission sur footpi.fr. Et les oranges sont aujourd'hui représentés, vous l'avez entendu, par Xavier Bedos. Salut Xavier.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Comment ça va?
En forme. Ouais. Depuis qu'on parle de Balbir là avant l'émission, moi ça me va.
En forme, oui, oui, mais on en parlera avant l'émission. On n'en parlera pas pendant l'émission. Merci Xavier. Et notre invité aujourd'hui est le 20e invité, donc, et ce n'est pas un gardien cette fois-ci, puisqu'on reçoit le directeur sportif de la meilleure équipe de la région, on peut le dire, en tête de la R1, l'AS Muret. Bienvenue dans Oxyfoot, Jean-Louis Fauré. En forme Jean-Louis? C'est faux de dire que c'est la meilleure équipe régionale? Au niveau régional du coup? Au classement?
Au niveau régional, l'équipe en tête actuellement, c'est vraisemblablement, je crois que c'est Balma, puisque au niveau régional aujourd'hui, la National 3 est aussi considérée comme une poule régionale, puisque
peut dire
c'est
ça
une
comme
poule
ça.
D'Occitanie.
C'est vrai. Donc, c'est vrai. C'est vrai Jean-Louis.
Je dirais que c'est Blagnac-Balma qui sont devant.
Bon, on a un petit problème de micro avec Xavier qui se transforme en Paganelli. Il tient le micro à Jean-Louis. Donc excusez-nous s'il y a des petits soucis en début d'émission. Mais il n'y aura pas de soucis pour Quentin. On va passer tout de suite au résultat du week-end. Et Quentin, on peut dire que Rodez retrouve le sourire.
Exactement. Une victoire en Béarn à Pau pour Rodez, 2-1. Et pour le coup, c'est le retour du RAF sur le podium. À 2 points de Grenoble qui est deuxième, mais avec tout de même un match en plus pour Rodez. Alors, on a eu la chance d'avoir le coach du Pau FC qui nous a livré son compte-rendu, David Vigne, sur cette rencontre perdue par son équipe de Pau vendredi soir.
Ils ont été très emballés sur la première période, ils ont été en grande difficulté. Et puis, ils rentrent au vestiaire avec un seul but d'écart. Et ensuite, ils se sont vraiment accrochés sur la seconde période, même s'ils marquent des buts avec un petit peu de réussite ou en tout cas en profitant de nos largesses. C'est une équipe qui n'est jamais lâchée et on l'a vu sur l'égalisation. Ils se sont vraiment remobilisés. Et bon, ça fait partie vraiment de leur qualité. En plus, après, il y a bien évidemment des joueurs de qualité, il y a de la technique. Mais ce qui ressort, c'est vraiment ça. C'est vraiment un collectif très fort.
Un collectif très fort que le coach palois David Vigne a salué pour la suite et fin de cette saison de National 1.
J'en pense beaucoup de bien, c'est une équipe qui fait une excellente saison, qui surfe sur la dynamique de la montée, c'est rien de le dire avec eux parce qu'en fait ils ont eu très peu de changements et c'est une équipe avec un E majuscule. Voilà, tout ce qu'ils font, ils le font ensemble, même quand ils ont eu des périodes difficiles, ils se sont accrochés, on sent qu'il y a une âme dans cette équipe et je ne sais pas s'ils vont monter, mais en tout cas, je leur souhaite.
Alors Jean-Louis, selon vous, est-ce que cette équipe de Rodez peut monter? Il y a eu des moments difficiles. Hein. On rappelle qu'elle recevra Cholet qui est 11e pour peut-être une deuxième victoire consécutive et pour le coup une remise en marche à quelques semaines pour le coup du verdict.
Disons que c'est une équipe qui avait son destin entre les pieds et ils sortent d'une série difficile, si je me souviens bien, 6 matchs sans victoire. Oui. Et de ce fait, ils se sont mis quand même en grande difficulté.
Ils pour la montée. C'est quand même, ils ont quand même un bon niveau.
Oui, non, mais on est d'accord.
Si on parle de montée.
Oui, mais depuis le milieu de l'hiver, il y avait une volonté de faire monter cette équipe. Il y avait on parlait de nouveaux stades, on parlait de choses comme ça. Donc Rodez s'est mobilisé pour pouvoir assumer cette montée. Ce qu'ils font est magnifique malgré tout. Mais effectivement, ce résultat à Pau arrive, il me semble, au meilleur moment pour les relancer et les remettre peut-être en marche avant sur le sprint final.
Alors, au classement, ils sont 3e, mais ils ont un match en plus sur tous les concurrents directs. Donc on continuera de suivre les aventures du RAF.
Ils sont à égalité à Grenoble et rappelons qu'une 3e place les emmène vers un barrage contre le 18e de Ligue 2. Donc là aussi, étant donné, est-ce qu'on peut considérer qu'une 3e place pour Rodez serait un échec entre guillemets au vu, peut-être Xavier ou Jean-Louis, au vu de la saison du RAF qui a longtemps été en tête, est-ce qu'on peut considérer qu'une troisième place, enfin, vous me direz si ça les emmène en Ligue 2, on l'oubliera finalement, mais est-ce qu'une troisième place peut être un échec au vu de la saison réalisée par le RAF ?
Ben, enfin, pour moi, quand depuis le début de la saison, ils font la course en tête hein, et qu'on a l'opportunité de monter, s'ils terminent troisième, ils vont être très déçus et c'est pas dit que la saison prochaine ils fassent une aussi bonne saison. Donc quand on a la chance de pouvoir avoir des bons résultats dès le début, bien faut les maintenir. Eux ils sont encore dans la course et faut pas qu'ils la loupent maintenant. Et je pense que tous les joueurs, vous savez quand on est joueur, on a un objectif. L'objectif il arrive petit à petit et on s'y maintient. On est tous mobilisés autour de ça. Et quand on commence, s'il y a deux journées de la fin, alors qu'on a joué la course en tête presque depuis le début, c'est un peu comme Colombier d'ailleurs, eh bien on est largement déçu. Et après, c'est très difficile, les saisons suivantes, de réenchaîner quoi, en termes de motivation, ou alors il faut changer beaucoup de joueurs, etc.
Comme si donc, on avait loupé un coche.
En fait. Pour moi, c'est ça, parce que souvent, vous vous rendez compte qu'une saison, elle a été exceptionnelle pour une équipe. Et puis, quand il y a une désillusion, top, c'est très difficile de réenchaîner la saison d'après. Voilà. Notamment pour l'entraîneur et les joueurs, parce que le discours, bon, on prend un pet au casque un peu dans cette situation-là, quoi.
Alors, Rodez a su repartir de l'avant. Par contre, ce n'est pas le cas de Colomiers en National 2 qui s'est incliné à domicile contre 7, 5e à 5 points de la première place. Là aussi, pour les Colomiérains, il y a un petit peu tout qui est en train de s'écrouler là finalement. Parce que c'est là, par contre, la série noire.
Quand on a reçu Florian, c'était quand, Quentin, il y a quoi ? Il y a un mois.
Un mois et demi, ouais. Deux mois.
Florian ?
Oui.
Deux mois, Xavier.
Ah ouais, déjà ?
Oui, deux mois. Oui.
Ah, il y a eu les vacances, ouais. Total ou quoi ?
Non, mais c'était mi-février.
Ouais. Ouais, mais bon, je crois qu'il y a eu 4 matchs. 4 matchs parce que, entre temps, parce que je crois qu'ils n'avaient pas joué, il y avait eu des matchs en retard. Alors peut-être qu'on n'avait pas bien vu le truc. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde de Colomiers, c'est qu'ils étaient là aussi, ils étaient premiers et seconds. Ouais. Ils jouaient avec Marignane, et d'ailleurs, on avait parlé du match de Marignane, qui allait être le sommet, et ils pensaient arriver là, en tête, quoi. Enfin, tout du moins, toujours dans les deux premiers. Or, eh bien, ils ont fait, je crois, un nul et deux défaites sur les trois derniers matchs, et ils se retrouvent dans cette situation. Et là aussi, pour eux, c'est difficile. Ils ont des jeunes joueurs hein, aussi, Colombiens.
Et c'est très difficile, encore plus pour Tarbes, Lanterne Rouge, qui s'est incliné à domicile 3-0 contre Martigues. Ils sont derniers, les Tarbais. Attention, parce qu'une descente pourrait influer aussi sur les montées dans les divisions inférieures.
Surtout sur les descentes.
Ouais. Oui, surtout.
Il y aurait 4 descentes de National 3 à R1, du coup.
Donc forcément, un destin à suivre de près. En National 3, match nul un partout entre Blagnac et Agde. 0-0 entre le Rodéo et Canet. 4-2, victoire de la Bédonyme, 4-2 à Luznac. Et défaite de Castanet à domicile contre la réserve du TFC de Buzaïan.
Et Muret cale en tête.
Oui, bon, toujours leader, hein, Jean-Louis avec pas mal d'avance, mais un match nul un partout contre Lourdes. Le Dauphin qui a pris ses distances sur son adversaire du week-end, Rodez, l'Abbé de Rodez face à Luc Primob de Buzaïn. Et Revel qui continue de s'enfoncer face à Aussonne, défaite à domicile de Buzaïn. Peut-être un petit mot, Jean-Louis, sur le match nul entre Muret et Lourdes ce week-end, un partout.
Oui, un résultat moyen. Après... On sortait d'une grosse série avec une grosse performance à Luc Primob le week-end dernier où on était à gagner 1-0 chez le troisième qui pouvait revenir. Donc certainement un relâchement. Donc dans une dynamique de victoire, un match nul au milieu, c'est pas la fin des haricots.
Ça peut être très mal pour un bien ?
Je ne sais pas. Enfin, moi, si on prend les points, je suis le plus heureux du monde. Hein. Je ne vais pas dire que je suis content qu'on ait fait match nul et que les autres aient gagné derrière. Mais évidemment. Pour autant, on n'a pas mis les ingrédients pour le gagner. Donc, quand on ne met pas les ingrédients, bah, il est normal de ne pas gagner le match. On s'est mis en difficulté, on prend un but en première mi-temps. On rate trois grosses occasions. On se crispe, on s'énerve. Il y a des comportements même limite inacceptables, voire inadmissibles sur le terrain. Voilà. Donc, ce n'est pas un bon match. Ce n'est pas une bonne soirée pour nous. On aurait pu le perdre.
C'est un avertissement.
Ouais,
c'est à voir s'il est sans frais.
Au moins un avertissement.
La suite nous le dira.
En R2 maintenant, messieurs, en poule A, le match nul entre l'Union et Pibrac 0-0, le leader qui va donc chercher un point chez le troisième. Le quatrième, Caser, en a profité pour reprendre donc deux points sur l'Union, du coup victoire à Pamiers 2-0. Et l'Abbé de Tarbes qui offre le spectacle, le premier spectacle, 6 buts à 1 face à Foix. Voilà, ils sont deuxième de la poule et on peut dire qu'ils ont soigné leur différence de but.
Et on peut dire aussi que ce n'est pas le seul carton du week-end en Régional 2, Quentin.
Exactement, Romain, puisque c'est Colomiers, la B de Colomiers, qui a battu la C de Rodez dans la poule B de R2, 6 buts à 3. Porté est allé battre Saint-Aurens 2 buts à 0, tout comme Tournefeuille à Grisolles. C'est un carton plein pour le trio de tête en Régional 2.
Jean-Louis, là, les trois vont monter.
Le trou est fait.
Oui, le trou est fait, oui. Ça va se jouer peut-être dès le prochain match, dès la prochaine journée. On connaîtra les trois équipes de cette poule-là.
C'est vraisemblable, je crois qu'il reste 4 matchs,
ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Et donc,
Saint-Alban est assez loin derrière. Ouais.
Oui,
rappelle au classement que Colomiers est premier avec 43 points, Tournefeuille deuxième avec 38 points, un match en moins, et troisième porté 38 points également.
Est-ce qu'ils vont essayer de se disputer le titre ou est-ce que c'est honorifique et... Xavier, vous en pensez quoi? Est-ce une fois que la montée est assurée, ou est-ce que ça va continuer à jouer derrière et c'est parce que toute l'année, les trois équipes ont été dans un mouchoir de poche et ils se sont échangés un peu les premiers rôles.
Bon, pour le titre de champion, je pense que Colomiers maintenant a
Oui, mais Tournefeuille a un match en moins.
Tournefeuille a un match en moins, mais je pense que Tournefeuille, un titre de champion, c'est un titre de champion. On termine premier, donc on a quand même, dans le palmarès, même si c'est amateur, hein, on est entre nous.
Non,
mais ça compte aussi. Déjà, de terminer premier de cette poule, c'est quand même une bonne performance. Ensuite, il ne faut pas oublier que Saint-Alban va jouer à fond. Je ne sais pas s'ils doivent se rencontrer encore avec les premiers, parce qu'il y a le quatrième, le meilleur quatrième des deux poules peut accéder à la Régionale 1. Donc, ils vont essayer de prendre le point le maximum. Et alors, c'est un peu compliqué, mais c'est un mini-championnat entre les 5 premiers, ouais, quoi, ou 6 premiers. Donc, forcément, il va y avoir des matchs. Saint-Alban, je ne pense pas qu'ils jouent que les équipes en fond de classement. Donc, il va y avoir... justement, ça va jouer sur ça. Ils sont obligés de
gagner. Il y a toujours l'intérêt dans cette poule.
Il y a toujours l'intérêt. Même dans l'autre poule. Même dans l'autre poule. Ou l'autre poule, bon... On va peut-être en parler vite fait, mais l'autre poule aussi, il y a le quatrième, rien n'est joué là aussi. Quoi.
Merci Quentin pour ce tour des pelouses hebdomadaires. Et donc, avec Xavier, on va se focaliser sur le match qu'a suivi Footpi, l'Union Pibrac en Régional 2. Et c'est à vous, Xavier.
Oui, Romain. Non, mais c'était le match justement entre l'Union qui est troisième et Pibrac qui est leader.
Quentin nous en a parlé tout à l'heure.
Voilà, ce match s'est terminé sur un score de 0-0. C'est Pibrac qui fait la bonne performance parce qu'il maintient son écart de points. Une équipe solide. Et puis l'Union qui, après avoir perdu à Blagnac la journée précédente, était obligée d'essayer de gagner, tout du moins de ne pas perdre. Le match s'est déroulé. L'Union a un peu dominé territorialement, notamment la première mi-temps, etc. Ils ne se sont pas créés de nombreuses occasions. Et sur les peu de bonnes occasions qu'ils ont eues, il y avait Flo Aitali qui a un peu sauvé, qui a fait les parades nécessaires pour maintenir le nul. Ça convient à Pibrac. L'Union n'est pas décrochée, même si Caser reprend 2 points pour la. Pour la troisième place qualificative à l'accession. Donc là, ça va être très serré. Je sais que l'Union a aussi des déplacements très difficiles. Donc ça va être serré jusqu'à la fin. Mais c'est ça qui est intéressant parce que alors, c'est un problème d'avoir autant de montées et autant de descentes. Mais c'est ce qui donne la force à ce championnat parce que tous les matchs sont importants. Et il n'y a pas une équipe jusqu'à la fin. Il n'y a pas une équipe pour l'instant qui peut lâcher. Il reste 4 journées pour ceux qui ont un match en retard et 3 pour les autres officiels. Donc il y a encore des points à prendre. Et comme ils se tiennent en 2 points, ça va être chaud jusqu'à la fin.
Très bien.
C'est tout.
Merci Xavier. Ouais,
de rien.
Ce 0-0, peut-être qu'il n'y avait pas,
pas de but.
Grand chose d'autre à dire. Mais merci Xavier. Il est 19h43 et c'est l'heure de faire connaissance avec notre invité, Jean-Louis. Avec Léo Moulinier.
Bonsoir Jean-Louis Fauré.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Je vais bien.
Alors d'abord, est-ce que vous saviez qu'il existait un autre Jean-Louis Fauré en France ?
Oui.
Vous savez ce qu'il fait ? C'est assez dingue, ça.
Oui, et même si vous êtes, si vous suivez un petit peu, il y a sur, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, j'ai ma biographie sur, je pense que c'est YouTube ou je ne sais pas, et sur la biographie en question, c'est un mélange de lui et de moi. C'est-à-dire, c'est sur mes photos avec sa vie à lui. Donc c'est,
il est né en Ariège.
C'est pas trop mal, il n'est pas né en Ariège, mais il y a mes photos sur un bord de terrain, et puis lui, qui est le personnage. Il y a même deux, Jean-Louis Forêt.
Ça ne nous donne pas son métier.
Ah bah, essayez de deviner.
Acteur.
Ça ressent, il y a de ça.
Il travaille sur les voix.
Ouais, exactement. Sa voix est connue.
Ah ben la radio alors.
C'est pas de la radio.
Là, il y a du doublage.
Du doublage. Et vous savez qui double ? C'est franchement, c'est
Stallone.
Un gros personnage.
Stallone.
Non.
Dans ces eaux-là ?
Non, c'est dans les séries.
Dans les séries.
Il double Walter White de Breaking Bad.
D'accord.
C'est dingue quand même.
Et il est avec nous ce soir.
Ouais, exactement.
D'accord. C'est lui.
Donc Jean-Louis Forêt, doubleur de voix, mais aussi à Muret. Dans le foot. Dans
est-ce qu'il y a Xavier Bedos qui double des voix ? On n'a pas l'info.
Alors ça, je vais faire mes recherches. Je vous dirai la semaine prochaine.
Non, il doit y en avoir, j'en suis sûr.
C'est croquignolesque tout ça. On va passer à autre chose, à cette carabistouille. Jean-Louis, nous allons ensemble revoir votre longue carrière. Aujourd'hui, vous êtes à Muret, mais vous êtes passé par de nombreux clubs et vous avez été entraîneur comme joueur. On va remonter donc de 35 ans. Nous sommes en 1983, vous jouez à Cugno, vous y avez joué pendant 10 saisons. Je pense qu'on peut dire que c'est votre club de cœur.
Tout à fait. J'ai démarré, je suis arrivé un jour au bord du terrain en même temps que Jean Denays. On est arrivés tous les deux et on s'est regardé et puis on arrivait. Lui arrivait du Fousseret, moi j'arrivais de Varilhes. Et puis en division d'honneur, et puis avec coach Mouinet qui avait fait la Coupe du Monde 58, qui a fait la Coupe du Monde 58. Et voilà, et donc je suis resté là parce qu'il se trouve que le club a évolué. Il y a un président emblématique qui s'appelle Daniel Sagar qui était. Qui a permis à ce club de gravir les échelons. Et moi, petitement, en ramant, difficilement, j'ai réussi à suivre et à monter en même temps que l'équipe.
Et qu'est-ce qui vous attache à ce club ?
Alors, ce qui m'a attaché à ce club, c'était d'abord un club familial. Au-delà de ça, il y avait une ambition. Donc, c'était un club qui était porteur d'une ambition. On avait comme coach Christian Lopez. Alors, Christian Lopez, pour les plus jeunes, c'est pas très connu, mais Christian Lopez, c'était le capitaine des Verts de la grande époque. Quand il est arrivé à Cugno, il avait 35 ans. C'est un peu comme si Laurent Blanc était arrivé en fin de carrière, entraîner un club comme Cugno. Donc, voilà.
Mais j'ai joué un match contre Jean-Louis à l'époque, un match de la montée pour c'était la D4.
Ouais, on s'est mis quelques gifles.
C'est voilà. C'est, ah, c'était.
Non, c'était un moment. J'attendais pas que ça arrive aussi vite. Mais parlons-en.
Non, c'était un Fonsorbe Cugno au Trépadé. Il y avait un monde de fous.
Ouais.
Et c'était le premier. Cugno était premier. Nous, on était deuxième, je crois. Et ben, si on gagnait, on pouvait espérer encore monter. Et c'est eux qui sont venus gagner à la maison. Mais ils avaient une équipe. Et donc, Christian Lopez, effectivement, il était là ce jour-là. Et voilà, ils étaient venus faire un petit tour au petit Bastia de la région.
C'est ça.
Un dimanche après-midi à 15h.
Jamais facile. 800 personnes.
C'est ça.
Et une joute. Alors,
sur le terrain.
J'ai une anecdote magnifique sur celle-là. Parce que. Bon, il se trouve que je suis enseignant et à cette époque-là, j'avais une classe de CM2 et le dimanche, bon, on joue ce match, bagarre, photo dans la dépêche et sur la dépêche, 5 minutes de folie dont on se serait bien passé et qu'est-ce qu'on voit en premier plan ? Moi de dos qui en colline à...
Parce que moi, j'avais le nom.
Voilà, Xavier est pas loin sur la photo. J'ai pas regardé mes classiques et là, j'ai mes élèves qui se passent.
Photo.
J'ai mes élèves qui se... Moi aussi. J'ai mes élèves qui se, j'ai mes élèves qui se passent la photo au fond de la classe. Et je vous avoue que c'était pas très glorieux quand même.
Bon, on viendra récupérer cette photo alors.
Il faut la trouver, il faut la mettre sur Internet.
On va la retrouver.
Justement, Jean-Louis, il était comment sur un terrain, notre ami Xavier ?
Un teigneux. Non, c'était vraiment un très bon joueur. C'était un joueur de club aussi. Moi, j'ai fait 10 ans. Lui, je pense qu'il a fait toute sa carrière ou quasiment à Fonsorbe. Et non, c'était un très très bon joueur et il s'en levait pas. Donc effectivement, il fallait se coltiner.
Oui, il s'en levait pas. Ça, c'est un terme ancien. Hein.
Oui, oui, c'est ça.
Mais
c'est
ça. Vous parlez, Xavier, on a l'impression quand vous nous parlez de ces matchs-là, et moi quand j'entends des anecdotes en bord de terrain, on a l'impression que c'est un autre football en fait.
Ben, l'arbitrage.
Vous qui avez connu ce football-là, messieurs, et le foot d'aujourd'hui, c'est, ça n'a rien à voir, on est d'accord. On a l'impression qu'on parle presque d'un autre sport.
Ben, Jean-Louis l'a dit, bon, déjà le premier truc, c'est l'arbitrage. Déjà les règles n'étaient pas les mêmes.
On n'avait pas le droit de frapper l'adversaire quand même. Non,
c'était pas du catch. Mais par exemple,
nous, sauf si on était maladroit.
Ouais. Mais si vous voulez, les arbitres étaient moins en train à mettre des cartons jaunes. Vraiment, pour prendre un carton jaune, fallait le faire vraiment exprès. Et un rouge, alors là, bon, c'était le summum. Donc, c'est pas que tout était permis, mais on pouvait un peu se permettre tout. Quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que, bien, déjà, les matchs étaient un peu plus folkloriques. Il y avait du spectacle à la fois, ben, parce qu'il y avait de très bons joueurs. Par contre, c'est ça qu'on oublie. Il y avait de très bons joueurs et le jeu. On s'entraînait peut-être un peu moins que les CFA2 de maintenant, et donc ça allait moins vite. Déjà, les terrains n'étaient pas les mêmes aussi, parce que là, maintenant, pour le coup, on a des terrains de très bonne qualité. Donc le foot, ça allait un peu plus vite aussi à cause de ça maintenant.
Parce qu'on est d'accord, vous jouez quasiment au plus haut niveau régional.
En fait. Non, mais là, c'était le... En fait, la DH de l'époque correspondait à la CFA de oui, maintenant. Enfin, la Nationale 3 de maintenant, puisqu'il n'y avait pas le National.
Et après, voilà. C'était division, division 3 directement.
Voilà, et puis il faut savoir qu'à l'époque, en division d'honneur, il y avait la réserve du TFC, il y avait des clubs comme Albi, tout ça, qui n'étaient pas montés. Bon, maintenant, ils sont redescendus, mais des clubs comme Colomiers étaient en division d'honneur. En fait, il y avait de très bons clubs de la région qui étaient en division d'honneur. Et il y avait de super joueur parce que bon, Christian Lopez, je crois qu'il avait quel âge, 37 ans quand il a signé à Cugnot.
35, je crois.
35, vous imaginez, le mec, il a fait toute sa carrière, fait une grosse carrière en équipe de France, des Coupes du Monde, et à 35 ans, il revient. Est-ce qu'il y a un joueur qui a fait une Coupe du Monde maintenant en division d'honneur, hein? Enfin, Jean-Louis, moi, je. Voilà.
Non, non, mais c'était.
Oui, c'est comme quand Julie revient en région. Ronald, Chasselet, je
un
crois.
Peu, voilà, un peu pareil. Ça, ouais. Il y a un autre truc, c'est le public. C'est-à-dire, oui, il y avait beaucoup plus de monde au stade. Pourquoi ? Ben parce que maintenant, quand on joue à 6 heures, ben, vous avez Bein, vous avez Canal, les gars, ils regardent les matchs à la télé, ils ne se déplacent plus. Et on ne joue plus le dimanche.
Vous le ressentez ça, Jean-Louis, qu'il y a beaucoup moins de monde sur le bord de terrain ?
J'ai regardé avec un peu d'amusement là, justement le reportage d'une finale de Coupe du Midi gagnée Cugnot-Saint-Simon, qu'on avait gagnée au Stade des Fontaines. Il y avait 2000 spectateurs au Stade des Fontaines. Voilà, ça a 2000 spectateurs aujourd'hui en amateur, à notre niveau.
Même en finale de Coupe du Midi ou là, de la Coupe d'Occitanie, ça n'arrivera pas.
Non, non, non. Aujourd'hui, très, très difficile. On trouve 2000 spectateurs dans certains coins de France. Si on va jouer aux Herbiers, on va jouer en CFA, oui, mais voilà. Ouais, mais en CFA et dans
le centre de la France. Là, on parle de football régional encore.
Voilà, tout à fait.
Léo.
On va revenir à Cugnot, Jean-Louis. Vous êtes donc resté une longue période dans ce club. Est-ce que, durant ce temps, vous n'avez pas eu envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs, même si vous y avez été par la suite ? Mais durant ces 10 ans, vous n'avez jamais eu envie de partir ailleurs ?
Moi, j'aurais rêvé de jouer à Muret. Mais Muret, c'était le meilleur club régional. Il y avait...
En division 3, justement.
Division 3.
Troisième niveau français.
Absolument. Et puis, il y avait un coach emblématique qui était Gérard Rabier, qui était vraiment un précurseur. Donc moi, j'aurais rêvé de jouer à Muret, mais je n'avais pas le niveau pour prétendre à jouer à Muret. J'avais déjà du mal à jouer à Cugnot. Voilà, on a quand même réussi à se hisser en CFA. On a fait une troisième division de l'époque. Et pour moi, j'étais vraiment à mon maximum.
Et c'est ce qui vous amène à l'USNAC en 1993. Vous y restez deux saisons. Quels souvenirs vous gardez de ce club ?
Oh là, l'USNAC, à cette époque-là, c'était... un club extraordinaire, avec des valeurs, avec du combat à l'ancienne, avec des gens, des dirigeants extraordinaires qui sont encore là d'ailleurs au club, et deux magnifiques années avec une bande de copains. Et c'était deux excellentes années à l'USNAC. Ouais. C'était pas encore le club, c'était pas encore l'USNAC qui était monté, mais il y avait déjà une grosse ambition dans ce club. Il y avait un peu d'argent, il y avait les talcs qui finançaient derrière. Donc voilà, c'était une belle expérience.
Il y avait un peu d'argent ou beaucoup d'argent pour l'époque ?
Il y avait beaucoup d'argent pour l'époque, on dira.
C'est ça, on est d'accord, Xavier.
L'USNAC, oui, c'était quand même un club, enfin ça l'est toujours, hein, puisque c'est un club d'ailleurs qui montait qui a été arrêté dans son élan pour la seconde division. Mais voilà, c'est un club ambitieux qui a toujours eu dans la région, comme des clubs comme Blagnac, Muret. Muret, ça a été l'un des premiers clubs d'ailleurs à atteindre le niveau, je crois, de national. Donc voilà, c'est des clubs historiques. Hein, donc ça descend un peu à certains moments, mais ça remonte toujours. Et donc voilà, et Muret, ils sont en train de le faire maintenant. Il y a 6 ans, ils étaient en CFA2. Ils sont descendus. Ils ont mis un peu plus de temps à remonter. Là, ils vont remonter cette année.
Peut-être. Hein. C'est pas fait.
Ouais, bon. Au moins d'une épidémie de choléra, ça risque de monter quand même. Mais bon, voilà, c'est des clubs historiques. Blagnac, pareil. Ils étaient descendus. Ils sont remontés. C'est des clubs solides, structurés et qui ont une histoire. Donc, quand on a une histoire, normalement, on arrive à rattraper le niveau.
Léo.
Jean-Louis, est-ce que vous vous souvenez du Bonanza ?
Absolument.
Il s'en est passé des choses là-bas.
Là, je crains le pire. Il y a des dossiers.
Vous en avez un en tête, peut-être ?
Peut-être pas, plusieurs.
Non, j'ai un retour de Luzenac un soir où un de mes coéquipiers, je conduisais. Moi, je conduisais parce que je ne buvais pas à l'époque. Et donc, j'étais le Sam. Et un de mes coéquipiers a tenté de descendre à 130 à l'heure sur une ligne droite parce qu'il avait envie de s'aérer un petit peu. Et c'est un des joueurs de l'équipe qui l'a rattrapé. La portière était ouverte. Il était en train de plonger 140. Donc, effectivement, et on était passé par le Bonanza avant. Et il était fortement imbibé, dirons-nous. Il se reconnaîtra peut-être.
Il y en a eu d'autres, hein, des histoires.
Un match qu'on avait gagné à Luzenac, qu'on avait été mangé au Bonanza, mangé souvent dans le même restaurant à Luzenac, à la remise à Vèvre. Et on était euphoriques ce soir-là, on avait gagné, on avait un petit peu consommé un peu d'alcool. Et on était monté sur les tables pour danser, je me suis retrouvé à grip à un moment donné, et puis il n'a pas rien trouvé de mieux que de me déchirer le grip. Il y avait du monde dans le restaurant, il y avait quelques femmes, et je me suis retrouvé parti à l'air, et j'avais plus de grip pour la soirée.
Alors comme ça, on déchire les slips.
Vraisemblablement le caleçon et puis le personnage en question.
Vous l'avez reconnu ?
Évidemment, le bison.
Jean-Guy Delrieux.
Jean-Guy Delrieux dit le bison. Il n'avait pas besoin de moi pour montrer ses fesses de toute façon. Mais bon, peut-être. Oui, effectivement, ça a pu arriver qu'on se laisse aller sur des choses comme ça. Mais le fait de déchirer les caleçons, c'était un grand jeu à une époque. Oui.
Vous le faites toujours ?
C'est plus simple.
Non, je sais pas. Non. Peut-être, il faudrait voir ce soir, peut-être avec Xavier, en fin de soirée.
Non, la soirée va s'écourter.
Léo, il faut enchaîner derrière ça.
Par la suite, vous rentrez chez vous à Cugnot. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
Alors, parce qu'on m'a proposé de devenir entraîneur-joueur et que j'avais déjà commencé à coacher un petit peu avant. Pour être franchement honnête, je n'avais pas le sentiment que le coach de ce moment-là, de Luzenac, avait très envie de me garder. Mm-hmm. Donc, les deux cumulés ont fait que je suis revenu à 30 ans entraîneur-joueur de l'équipe 2 de Cugnot.
Est-ce que ce n'était pas un petit peu la facilité de retourner dans ce club ?
Ah, je ne pense pas. Quand on devient prendre une équipe en tant qu'entraîneur-joueur, déjà, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est réellement pas si facile que ça. Ensuite, entraîner des joueurs avec lesquels j'avais joué peu de temps avant, ce n'est pas facile non plus. Je n'étais pas le plus sérieux. Donc forcément, quand vous devenez entraîneur et que vous n'êtes pas le plus sérieux. Et le pire, il y avait même mon frère qui jouait dans l'équipe. Alors pour coacher l'oiseau, là, c'était quand même assez redoutable.
Excusez-moi Léo, c'est difficile d'être entraîneur-joueur même à un niveau un peu plus reculé.
Il faut être meilleur, hein. Si on est moins bon, on a envie de se faire jouer, on ne le voit pas toujours, donc ça demande d'être au niveau. Le jour où on n'est plus au niveau, il faut savoir s'enlever. Donc la difficulté, elle est parfois là.
Léo.
Et est-ce que vous vous rappelez d'un match contre Tarbes ?
Avec Cugnot ?
Oui, avec Cugnot.
Match contre Tarbes avec Cugnot ? Non, ça ne me vient pas là.
Écoutez.
Ah, attention à l'anecdote.
Sur un match à Tarbes où il jouait 6 et où moi je jouais stopper, où il était entraîneur-joueur hein, à cette époque-là. En tout cas, il était nul ce jour-là. Il perdait tous les ballons. Donc derrière, nous, on prenait des vagues successives, on n'en pouvait plus. Et il n'arrêtait pas de nous donner des consignes, mais lui, il n'en faisait pas une. Donc on s'est engueulé sur le terrain comme des chiens pourris. Et à la mi-temps, on s'est fait. L'arbitre nous a convoqué dans son vestiaire pour demander d'arrêter parce que sinon, il nous mettait dehors tous les deux, quoi, tout simplement.
Je comprends pourquoi vous l'avez oublié ce match si vous étiez si nul.
Non, mais là, c'est. c'est Marco Cafiro qui se fait plaisir.
Il se paie Jean-Louis Fauré.
Il se paie, voilà.
En direction,
il se paie, ouais, exactement. Non, je ne devais pas être très bon puisqu'il le dit, mais ça nous est arrivé. Il avait un très, très fort caractère. Et donc, effectivement, on s'est attrapé une ou deux fois. Alors, je ne me souvenais pas que c'était contre Tarbes, mais effectivement, c'est arrivé. Et je me souviens de l'anecdote avec l'arbitre qui... Pour autant, on avait fait une excellente deuxième mi-temps. Justement, ça avait transcendé l'équipe et ça nous avait permis. Je crois qu'on avait été champion cette année-là.
Des fois, des coups de gueule peuvent remettre en place certaines choses.
Oui. Et puis, moi, j'aime bien. J'ai toujours aimé les joueurs qui avaient du caractère. Et lui, il en avait. C'était même au-delà parce que c'était un spécialiste des planches à un mètre de haut. Donc, mais en dehors de ça, c'était. Non, c'est des bons souvenirs, Cugnot.
Léo.
Et à partir de 1998, vous changez de poste. Vous n'êtes plus joueur, mais entraîneur. C'est la victoire d'Aimé Jacquet à la Coupe du Monde qui vous a donné cette envie ?
Je pense que c'est plus conjoncturel qu'autre chose, mais le jour où j'ai commencé à entraîner seulement, c'est le jour où j'ai senti que mes jambes ne me permettaient plus d'être entraîneur-joueur. Donc j'ai eu la lucidité assez vite de voir qu'il valait mieux n'être qu'entraîneur, et donc on est devenu qu'entraîneur à ce moment-là.
C'est souvent le cas, en fait, qu'on arrête et puis qu'on est toujours passionné de foot. Et qu'on a envie de continuer à partager ces choses-là, ben voilà, on a les cannes, faut pas être ridicule non plus. Et pour ceux qui ont, parce que je suppose que tu avais les diplômes ou tu les as passés après ?
Non, j'ai passé les diplômes assez tôt.
Ouais. Voilà, donc ben c'est la continuité quoi de la chose. Et puis, alors c'est un autre foot, mais qui demande, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup plus de temps que quand on est joueur, parce que joueur, on va à l'entraînement, on s'entraîne, on joue, et on va au match, on s'entraîne, on joue. Maintenant, entraîneur, il n'y a pas tout ça. Il faut faire le recrutement, il faut préparer les séances, il faut cajoler les joueurs, il faut répondre aux textos, il faut les rassurer. Bon, enfin, c'est plus un truc de nounou maintenant.
Et du coup, Jean-Louis, rapidement, vous avez eu l'intention de coacher finalement. Même joueur déjà, vous y pensiez ?
Oui, j'ai commencé à coacher, je devais avoir 22, 23 ans, à Cugnot justement. Je coachais j'ai commencé avec les débutants et Robert Grisolia, une figure du foot cugnalais. Et j'ai coaché très jeune à Lusenac. Quand j'ai signé à Lusenac, je faisais les séances à Toulouse. Donc j'étais à la fois, déjà j'avais une double casquette, je commençais à avoir une double casquette.
Oui, parce que c'est un club particulier, Lusenac.
Disons qu'à l'époque...
Tout le monde n'est pas de Lusenac quand on joue à Lusenac.
Disons que maintenant, pour aller à Lusenac, l'autoroute, c'est très rapide. À l'époque, il y avait 1h30 de route, donc les Toulousains allaient une fois...
Il y avait le Bonanza en plus.
Sur le chemin, c'était difficile, et pas que le Bonanza d'ailleurs. Et de ce fait, on s'entraînait le jeudi, et le mardi, on s'entraînait à Toulouse.
Jean-Louis, est-ce que le fait de passer coach a changé votre vision sur le football ? Parce que souvent, on dit que le passage de la frontière entre le terrain et le banc parfois nous fait appréhender le sport d'une façon différente. Comment est-ce que vous avez vécu ce changement, vous ? Même si la transition s'est faite doucement, vu que vous avez été entraîneur-joueur entre-temps, il y a eu une transition plus douce, on va dire ?
Oui, vraisemblablement, oui. Disons que quand j'ai commencé à être entraîneur-joueur, je me suis rendu compte tout de suite que j'étais plus entraîneur que joueur. Dès lors que le fait d'être entraîneur, comme disait Xavier, ça, c'est une vocation, c'est une mission, c'est du temps plein, on doit gérer des tas de choses. Et donc, effectivement, on se retrouve très, très vite, beaucoup plus entraîneur que joueur. Donc, je ne sais pas si ça a changé philosophie. J'étais un bourrin sur le terrain, donc je n'étais pas le plus grand technicien. Et donc, après, on s'intéresse à des problématiques de jeu que je n'avais peut-être pas forcément rencontrées quand j'étais joueur.
Léo ?
Et comment s'est déroulée cette reconversion ? Ça a été long, en fait. Vous avez commencé à Cugnot, après vous êtes passé à Carbonne, et c'est à Carbonne que vous êtes vraiment entraîneur, en fait.
Là, disons que j'avais démarré entraîneur-joueur en PH, on avait été champion de PH, on est monté en DHR, et j'ai fait deux saisons où je pouvais encore jouer un peu, et un peu moins la deuxième année, et on me propose un challenge à Carbonne à l'époque, qui était une très très bonne équipe régionale, qui venait de monter en DH, et on me propose d'entraîner en DH, et en DH... Je ne pouvais pas, j'avais pas le niveau pour être, pour continuer à jouer avec ces joueurs-là. Je pense que j'avais la meilleure équipe de la région avec des phénomènes absolus. Je dirais même une équipe de phénomènes. Jean-Guy Derrieux en fait partie. Il y avait Bibi Andrés qui jouait avec moi. Bref, une équipe de furieux et extraordinaire avec qui allait chercher la gagne. Enfin, je me suis régalé. Bon, j'ai été viré avant la fin de la saison, mais je me suis régalé.
Pour quelle raison ?
Vous restez peu, justement.
Pour quelle raison ?
Pour quelle raison ? Parce que je n'ai pas été très bon.
j'ai pas été très bon parce que j'appellerais ça le mythe Gérard Rabier. C'est-à-dire que Gérard Rabier, c'était l'entraîneur emblématique. Et attention, Dieu sait que je respecte ce personnage, ce monsieur, qui est pour moi un des plus grands monsieur du football régional depuis des lustres. Et c'était un entraîneur avec les pleins pouvoirs. Et les jeunes entraîneurs de ma génération, on est arrivés, on voulait absolument avoir les pleins pouvoirs. Et quand je suis arrivé à Carbone, je n'ai pas su composer. Il y avait Jean-Pierre Filliol qui m'avait laissé la main, qui était directeur sportif, et je n'ai pas su composer avec lui. Donc, je n'ai pas été très malin. Et... Donc, 1er avril, j'ai été débarqué alors qu'on était seconde du championnat de DH pour une équipe qui montait. Alors, je n'ai pas très bien compris sur le moment. Avec le recul, maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi. Je n'ai pas su m'adapter à ce club. C'était un club de copains. J'ai voulu vraiment être compétiteur. Donc, cette fois-là, pas très bon.
C'est honnête de le reconnaître. Léo.
Et selon vous, quelle image vous aviez auprès de vos joueurs ?
À Carbone ?
Oui, à Carbone.
Pas une bonne image, je pense. À Carbone, c'est il y a une partie du groupe qui était très attachée à Jean-Pierre Filliol, c'était leur papa, et il avait un très fort charisme, donc ils étaient à fond derrière lui. Et je j'ai un peu de mal à juger ça. Moi, j'avais essayé d'apporter la tactique, de la rigueur, des choses auxquelles je croyais. Et puis, je pense qu'il fallait s'appuyer plus sur l'état d'esprit. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à savoir là.
Jean-Guy va essayer de vous éclairer.
Oh. Il était pour moi un entraîneur comme il était joueur. Il essayait de motiver les joueurs. Il essayait d'amener aux joueurs ce qu'il avait vécu lui en tant que joueur. C'est-à-dire, c'est amené ce grinta qu'il a toujours amené dans les clubs où il est passé. Et comme je vous disais, c'est un Ariégeois, il est de Marie. Il a cette grinta-là, ce qui a fait qu'il ait fait de bonnes saisons aussi en tant qu'entraîneur dans les divers clubs où il est passé.
Vous ramenez cette grinta, en fait ? C'est ça le secret ?
Non, c'est pas suffisant la grinta. Ça va un temps, la grinta. On peut baser des performances sur la grinta. Alors oui, sur des périodes, oui, bien sûr. Comme tous les coachs de la région, on aime gagner, on veut gagner, on essaie d'amener ça. Mais la grinta, c'est effectivement, on peut s'appuyer dessus un temps. Mais
c'est ce qu'a fait Duprat avec le TFC, par exemple.
Duprat, c'est au-delà de la grinta. C'est un management et une gestion humaine extraordinaire.
Mais ça a duré que sur une fin de saison.
Peut-être.
On peut faire une comparaison.
Oui, vraisemblablement, oui. Je pense qu'un entraîneur, aujourd'hui, on lui demande d'être un tacticien, surtout au plus haut niveau. Si on parle de Duprat, on demande d'être un tacticien, un meneur d'hommes, un psychologue. Enfin, c'est très, très compliqué. C'est des machines de guerre. Pour l'avoir rencontré, c'est un gars qui, quand on discute avec lui, il est extraordinaire. Mais comme Eli Bob peut être extraordinaire, comme Alain Casanova peut être extraordinaire, c'est des mecs à ce niveau-là, c'est des machines, parce que la pression qu'ils ont et ils arrivent à tenir le cap, c'est remarquable.
Léo.
Un an plus tard, vous partez pour Muret. Alors, comment s'est passée cette première transition en tant qu'entraîneur ?
Alors, je pars à Muret et je prends la DHR de Muret. Ça se passe très bien, puisqu'on est champion et on monte en DH à la fin de la saison. Mais je découvre autre chose. Là, c'est un club formateur, encore plus qu'à Cugnon. Et la nécessité d'être vraiment à l'écoute de jeunes joueurs, faire progresser de jeunes joueurs. Donc, cette dynamique de progrès, avec le fait de travailler beaucoup les séances, de faire cette dimension formateur que l'on a moins dans des clubs où on nous demande des résultats à court terme.
En 2001, vous arrivez à Labège pour 4 saisons. C'est l'une des équipes que vous entraînez le plus. C'est aussi l'une des équipes avec laquelle vous obtenez les meilleurs résultats.
Oui, on est monté en CFA2. Mais on a galéré, on a fait 2-3 saisons de DH pour arriver à monter, mais c'était un club magnifique, une aventure magnifique avec des garçons qui sont restés, enfin, je dirais presque tous des amis, des dirigeants qui sont restés des amis, avec l'emblématique Jacky Colchou là, qui était une vraie figure du foot régional. C'était un président, alors il n'était jamais président, il était toujours en réserve de la République. Il était le vice-président systématiquement, mais portait ce club. C'était son club à lui. D'ailleurs, le jour où Jacky Colchou a arrêté, le club est descendu. Donc, j'avais des dirigeants extraordinaires. Fait un fonctionnement. Je pourrais en parler pendant des heures, tellement c'était amusant. Mais des joueurs autour de Coco Duchesne, l'actuel entraîneur de Castanet, Brun, qui était à cette époque-là un des meilleurs joueurs de la région. Enfin, vraiment des super mecs, des super gars, une équipe des Aveyronnais, une équipe composée d'Aveyronnais, d'Ariégeois, de Comminjois, et donc qui allaient à la guerre. Alors eux, vraiment, on était moins bons que les autres, mais quel bonheur de les coacher.
Un beau mélange, Léo. Exactement.
Selon les stats qu'on retrouve sur Internet, de 2002 à 2004, votre pourcentage de victoire s'élève à 59%.
Vous êtes plus fort que moi, là, je ne maîtrise pas ça.
Comment vous avez fait pour obtenir ce ratio de victoire?
Bah, j'avais déjà une très bonne équipe. J'avais une très bonne équipe, un vrai groupe. Et on est allé chercher une montée au bout de quelques saisons, se bagarrant contre Colomiers d'ailleurs à cette époque-là. Et non, j'avais vraiment des très, 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 très bons joueurs.
Mais en 2004, c'est la dégringolade. Vous n'arrivez plus à maintenir ce pourcentage. Il passe à 17%.
Bah oui, forcément, on monte en CFA2. Et c'est le moment où Jackie Conchou est obligé, tombe malade, est obligé d'arrêter. Et on n'a plus de budget, on n'a plus de sponsors et on a une équipe moins bonne qu'en DH l'année d'avant. Donc c'est assez compliqué de maintenir le cap. Et puis on est en CFA2, on a failli se maintenir. On tombe pour un point, je crois, à cette époque-là. Et parce que justement, c'était la bande de copains qui avait continué à s'accrocher et on n'avait rien lâché. Donc, pour autant, cette quatrième saison à la Belge, c'est peut-être celle où moi, je suis le meilleur. Mm-hmm. Parce que les saisons d'avant, ils avaient moins besoin de moi. Et bon, pour autant, on n'arrive pas à se maintenir.
Et c'est peut-être ça qui va provoquer votre départ?
Bah, pour dire la vérité, un jour, mon président vient me voir et me dit « Jean-Louis, il faut que tu t'en ailles parce qu'on ne pourra plus continuer à maintenir le club là où il est. » Donc, du coup, je suis parti.
C'est honnête.
Ah oui, c'était un seigneur. Voilà.
En 2005, vous arrivez à Blagnac pour trois saisons.
Deux saisons.
Au bout de ces deux saisons, donc, vous partez pour le club de Toulouse-Fontaine. Quel souvenir vous gardez de Toulouse-Fontaine? Que vous retrouverez après, plus tard.
Toulouse-Fontaine, c'est...
Alors, on peut clairement dire que c'était le club numéro 2 de Toulouse à cette époque-là. Il y avait, enfin, tout le monde connaissait... le TFC et Toulouse-Fontaine comme on connaît Lyon et Lyon-la-Duchère, Xavier.
Ouais, c'était un club qui avait déjà son équipe première. Alors, je ne sais pas quand ils étaient, s'ils étaient en CFA encore. CFA 2, voilà, ils venaient de descendre. Et alors, c'était peut-être le début du... c'était le début un peu des difficultés du club parce qu'ils avaient une grosse génération avant avec Moens, tout ça, qui jouait dans les équipes, des gars comme Freddy Ouvray, d'ailleurs, qui sont coach maintenant. Donc, il y avait une très grosse génération, et surtout, c'est qu'ils avaient tout un cursus de jeunes dans toutes ces équipes. Et à un moment, ce club aussi a eu des difficultés au niveau des dirigeants. Et là aussi, à cause de un peu d'argent, parce que même dans le foot amateur, on a besoin d'argent pour maintenir à la fois les joueurs, les entraîneurs, de jeunes. Et donc, quand il manque ça, tout petit à petit, ça s'effondre. Quoi. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé à Fontaine.
Jean-Louis.
Disons que il y a eu le club des Fontaines a été pris à un moment donné par. Le duo Sablerol-Deson, donc deux présidents, anciens joueurs des Fontaines, qui avaient comme ambition de monter le club en Ligue 2. C'était ambition affichée. Ils se sont lancés sur un recrutement de joueurs professionnels. Ils ont recruté 8-9 pros. Et disons que ça a rattrapé le club les années d'après. Moi, je suis arrivé l'année d'après. Et le deal, c'était où je montais et je passais professionnel, où je ne montais pas et j'étais viré à la fin de l'année.
Et
on est monté, mais je ne suis pas passé pro, et heureusement, parce que le club a connu des difficultés financières. Alors, c'était la crise de l'immobilier. Les deux présidents étaient dans l'immobilier, donc un des deux a été en incapacité de pouvoir continuer à assumer son rôle. Et on est monté en CFA, et là aussi, un peu comme à la Belge, mes joueurs avaient même fait grève parce que plus payés. Quatre départs en décembre, et on descend pour un point. Enfin, c'est un souvenir. C'était une magnifique saison parce qu'on s'est régalé. Et difficile de descendre cette année-là.
C'est ce que j'allais dire. Vous avez souvent répété que c'était l'une de vos meilleures saisons en tant que coach cette saison-là, malgré la descente.
Disons qu'il y a des saisons où quand on a un groupe qui fonctionne, je dirais presque, on met en place ce qu'on veut et ça avance. Quand on est moins bon, c'est difficile, ben on est obligé de trouver des réponses. Là, en CFA, cette année-là, les premiers matchs, on se faisait secouer, on défendait, alors les garçons étaient héroïques, on a fait match nul au Camp des Loges 1-1 contre Paris Saint-Germain, on a une occasion, ils en ont 15, on fait match nul au Red Star 0-0, ils ont 10 occasions, et à un moment donné, je me suis dit, comment on va faire pour... Il faut les aider, quoi. On ne va pas y arriver. On tenait le cap parce qu'on était en bloc équipe très bas et on se faisait secouer par tout le monde. Et donc, deuxième partie de saison, on a décidé d'aller faire pressing, quasiment pas tout terrain parce que ce serait suicidaire, mais d'aller chercher nos adversaires plus haut. Et on surprenait pas mal de monde et on a réussi à faire des résultats, à gagner pas mal de matchs. Et on tombe pour un point ou deux points avec des anecdotes. Un de mes joueurs, mon défenseur central, préfère aller voir la finale du Stade Toulousain parce qu'il est plus payé plutôt que de jouer le match décisif. Et l'avant-centre d'en face fait un triplé.
Parce qu'on perd 3-2. Le match Toulousain avait gagné.
Oui.
À l'époque, il gagnait.
À l'époque, il gagnait, mais il regagne.
En 2011, vous retrouvez votre club de Cugnot. Ça fait quoi d'entraîner justement cette équipe dans laquelle vous avez joué pendant 10 ans?
En binôme avec Coco Duchesne, qui était mon entraîneur, enfin qui était mon capitaine pendant de nombreuses années, donc on s'est régalé. Une très bonne saison, une très très bonne saison. Et voilà, j'avais plus envie, enfin peut-être plus, peut-être que d'autres clubs ne m'auraient pas sollicité, mais j'avais envie de retrouver le niveau régional parce que 8 ans de coaching au niveau national, c'est des déplacements tous les week-ends, c'est une vie que pour ça. En CFA, tous les autres coachs étaient professionnels, moi je suis directeur d'école, donc c'était très très difficile à concilier.
Mais vous restez qu'une saison.
Oui.
En 2012, vous partez pour le TF Croix d'Orade pour 2 saisons. Oui. À l'issue de ces 2 saisons, vous retrouvez le club de Toulouse-Fontaine.
Non, je ne fais qu'une saison à Croix d'Orade parce que le club de Toulouse, de Croix d'Orade connaît une affaire un peu sordide.
Au début de la deuxième saison, c'est ça ?
On a fait 2 entraînements, oui, au mois d'août. On s'est retrouvé, le club n'est pas reparti. Donc c'est du coup en décembre que j'ai repris Toulouse-Fontaine pour une opération de sauvetage, puisque Toulouse-Fontaine était dernier à ce moment-là. Et on n'a pas réussi à le maintenir, même si on a fini second de la phase retour. Mais ce n'était pas suffisant pour s'en sortir.
En 2014, vous partez à Saint-Aubin-en-Canville, et juste une saison à nouveau.
Saint-Alban-en-Canville. Saint-Aubin, ce n'est pas la même chose.
J'ai dit Saint-Alban.
Saint-Aubin.
Oui, oui. Disons que j'ai eu 2-3 saisons là un peu compliquées où je ne me suis pas vraiment régalé, où je n'ai peut-être pas été très bon. J'avais eu quelques saisons où je faisais gagner mes équipes. Là, c'est pas des très très bonnes saisons. Même si on finit seconde de la phase retour avec les Fontaines, c'est une belle aventure parce qu'on a au départ une armée de Mexicains et après on a réussi à aller à la guerre avec ces garçons. Et c'était surprenant d'arriver à ça. Mais il y avait quelques très bons joueurs dans le lot. Voilà, on a, sur les derniers temps, il était temps que j'arrête de coacher.
Donc sur ces dernières saisons, on voit qu'il y a eu de nombreux bouleversements. Comment vous faisiez pour vous adapter à chaque fois ?
Nouveau challenge, nouveau lieu, arriver, c'est un déménagement, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. On essaie de tirer la quintessence d'un groupe, c'est pas toujours évident, mais on fait ce qu'on peut, on va dire, avec les moyens dont on dispose. Quand on est entraîneur, il y a des saisons où on a d'excellents joueurs, des saisons où c'est un peu moins bon. Et quand on a des joueurs un peu moins bons, il faut essayer de tirer la quintessence du groupe. Donc, quand on joue le maintien, c'est difficile, ça fait mal à la tête. Il faut des aspirines, comme dirait Bibi. Il y a des saisons où c'est plus facile. Quand on caracole en tête, c'est un métier passionnant. Mais quand on est en bas, c'est beaucoup plus difficile, ce job.
Par la suite, vous arrivez à Tournefeuille.
À la maison.
À la maison.
Et pourtant, vous n'y avez jamais joué et jamais entraîné avant.
Non, tout à fait. Je me suis régalé à Tournefeuille.
Vous travaillez à Tournefeuille. Hein. Vous vivez à Tournefeuille.
Oui. Je me suis régalé avec des mecs extraordinaires. C'est-à-dire que humainement, c'est pareil. J'ai retrouvé un peu la Belge de la belle époque avec des garçons, un groupe, un staff autour de moi qui était extraordinaire. On s'est régalé.
Et après, vous partez pour Muret. Donc finalement, ce club qui vous faisait rêver étant plus jeune, vous y arrivez ?
J'étais déjà passé, mais en tant qu'entraîneur, et là oui, avec un nouveau rôle, donc directeur sportif, un rôle différent. Enfin, directeur sportif, on est 2 directeurs sportifs à Muret. Moi, je suis en charge des 17 aux seniors, et Jérôme Dallion, avec qui j'avais déjà travaillé précédemment, lui est en charge des 15 ans jusqu'à l'académie.
Et selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux dans ce club ?
La question qui tue.
Non, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Déjà, ce qui est important, c'est le vous.
Vous, personnellement ?
Alors, vous, personnellement, le vous, justement, dans un rôle de directeur sportif, c'est plus un vous au sens de collectivement. C'est Muret, c'est un club où il y a d'énormes compétences, il y a beaucoup de gens très très compétents, plein de domaines, et donc c'est vraiment un vrai travail en équipe. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est pas intéressant de, enfin, il y a pas la logique de se mettre en avant. C'est la logique de faire avancer collectivement un projet qui est un joli projet avec une école de foot de qualité, avec de la formation, avec des infrastructures, avec des gens compétents à tous les niveaux. Donc c'est vraiment le vous là qui l'emporte sur le jeu.
Et voici la réponse de votre président.
Il accorde certains passes droits à joueurs qui aujourd'hui, vu les mentalités de la société et l'éducation des uns des autres, ne le rendent pas forcément. Donc des fois, ça lui revient un peu, ça, le boomerang lui revient un peu dans les dents. Mais bon, après, celui qui ne fait jamais rien ne risque pas de se tromper.
Voilà les consignes de votre président.
Amélie Vissé, le président, là, aujourd'hui.
Il met des tacles, ouais. J'ai dû l'énerver ce week-end.
Vous serez toujours à Muret la saison prochaine ?
Vraisemblablement, oui. Il faut demander à mon président.
Il m'a dit la même chose. Donc vous serez toujours à Muret la saison prochaine.
Absolument.
On passe tout de suite à l'interview dernière fois. Le jingle n'est pas parti non plus cette semaine. Jean-Louis,
on arrivera à le faire partir.
On y arrivera, on y croit. Jean-Louis, je vais vous poser des questions. Vous allez me répondre avec la dernière chose que vous ayez faite. Si je vous dis dernière paire de crampons achetés.
Copa Mondial.
Dernier but marqué.
Putain, là, c'est dur, hein. CSC, sûrement. Non, dernier but marqué.
Avec les vétérans, on dit.
J'ai dû faire un match de vétérans où j'ai dû réussir à en pousser un au fond, mais je ne m'en souviens même pas.
Dernière joie sur un terrain.
Bon, la dernière joie, c'est le dernier but marqué ce week-end par l'équipe 2 de Muret dans un match contre Lourdes.
Dernière déception sur un terrain.
Le pénalty sifflé à la 92e minute du même match qui a donné la victoire à Lourdes 3-2. Donc voilà.
Dernier carton.
J'ai jamais pris de carton dans ma carrière. Vous parlez d'un carton rouge, carton rouge ou jaune.
Il n'y a eu pas d'accident de voiture.
Non. J'ai pris un rouge dans toute ma carrière.
Vous savez c'était contre qui ?
Oui, contre Toulouse-Fontaine. J'ai voulu protéger un de mes camarades qui n'avait vraiment pas besoin de moi puisque c'était Christophe Généraux et qu'il n'était vraiment pas en situation difficile. J'ai voulu le protéger. Donc j'ai fait le coup de poing et je me suis fait expulser.
Dernier match regardé à la télé.
Le dernier match regardé à la télé, c'était un match de rugby. C'est le Stade Toulousain ce week-end.
Dernier match en tribune.
Muret, le dernier match, c'était à Muret ce week-end aussi.
Dernier maillot acheté.
Ou offert ?
Le dernier maillot que l'on m'a offert m'a été offert par un fan de Saint-Étienne. J'ai eu un maillot de Saint-Étienne, un maillot vert de Saint-Étienne.
Dernier pari, si vous êtes joueur ?
Non, je ne le parie pas.
Une dernière question, Jean-Louis Forêt par Jean-Louis Forêt, ça donne quoi ? Comment vous vous définiriez ?
Difficile à dire. Carta dirait qu'il aime bien Jean-Louis, il n'aime pas trop Forêt.
On va garder ça ?
Mister Jean-Louis, Docteur Forêt ?
Oui, non. Je m'amuse, on s'amuse pas mal de ça. Non, disons que il y a plusieurs personnes. Quand on est entraîneur, on donne une image de soi sur le banc de touche. Donc moi, j'étais un peu belliqueux, un peu chambreur, un peu provocateur. Donc forcément, on n'a pas toujours une très bonne image par rapport à ça. Donc ça va dire que c'est Forêt. Après, Jean-Louis, c'est le mec à la maison qui est vraisemblablement peut-être un peu plus sympa que Forêt parfois, quoi.
Merci Jean-Louis. On passe tout de suite à l'interview tac au tac de Quentin.
Alors, Jean-Louis, on va faire vite. Si je vous demande Barça ou Real ?
Faut faire vite. Hein.
Bilbao.
Ah, Joker donc. Il n'y en a qu'un. Hein.
Ça n'existe pas ça.
Real.
Très bien. Bon, le Joker n'est pas encore utilisé. OM ou PSG ?
Saint-Etienne.
J'aime bien les deux, c'est paradoxal, donc je dirais OM.
Bon choix. Bayern ou Dortmund ?
Dortmund.
Manchester City ou Manchester United ?
United.
Buffon ou Casillas?
Buffon.
Gerrard ou Pirlo?
Oh putain, là c'est dur. Hein. C'est deux joueurs que j'adore. Le tempérament de Gerrard.
Iniesta ou Xavi?
Pareil, c'est dur.
C'est les deux mêmes. Je dirais Xavi.
Guardiola ou Mourinho?
Là, c'est différent.
Totalement différent. J'aurais longtemps répondu Mourinho, je vais répondre Guardiola.
Deschamps ou Zidane?
Zidane.
Rugby ou basket?
Rugby.
Tennis ou hand?
Tennis.
Thé ou café?
Café.
Whisky ou vodka?
Ni l'un ni l'autre.
Pain au chocolat ou chocolatine?
Chocolatine.
Mer ou montagne?
Les deux, mon capitaine.
Italie ou Espagne?
Ah!
Les deux, mon capitaine.
Ah, là aussi, là, je vais très souvent en Italie, je vais très souvent en Espagne, donc c'est difficile de me faire un choix. Je me sens très très bien quand je suis en Italie.
États-Unis ou Australie?
Australie.
Tournefeuille ou muret?
Oula.
Football, ce sera muret.
Jean-Louis Fauré de retour sur le banc bientôt, oui ou non?
Non.
Ça vous manque pas?
Parfois.
Le terrain? Remettre le survêt?
Il y a dans mes fonctions, il y a des tas de choses. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain dans le foot. Et l'humain, on peut le trouver dans la fonction que j'opère, dans ma fonction actuelle.
Quentin.
La vidéo dans le foot, oui ou non?
Oui, mais en cadrant.
Et la France, elle peut la gagner, cette Coupe du Monde?
Oui.
Très bien. Mais rendez-vous le 15 juillet, alors. On a eu beaucoup de oui à cette question.
Ouais. On verra.
Vous ne m'avez pas demandé si elle va la gagner. J'ai dit, vous m'avez demandé si elle peut la gagner.
Non, est-ce qu'elle va et la gagner?
C'est pas pareil.
Mais c'est, il faut, avant de vouloir, il faut le pouvoir.
D'accord.
Donc on va dire, on part sur de bonnes bases.
Messieurs, tout de suite, on va écouter ACDC. Merci à Jean-Louis pour ce choix musical. On comprend que si vous écoutiez ça avant les matchs, que ce ne soit pas le même football qu'aujourd'hui.
C'est pas faux, on écoutait ça avant les matchs.
Alors, pour nos auditeurs pendant la...
C'était pas du Maître Gims, hein. Machin.
Pour être franc avec nos auditeurs, on a retrouvé la photo dont vous parliez tout à l'heure. On la postera sur Footpi en même temps que le podcast de l'émission. Et on avait en face de nous Jean-Louis et Xavier qui se cherchaient, qui se sont trouvés. Il y avait plus de cheveux du côté de...
Un peu plus, c'était un peu plus fourni capillairement.
Allez, j'essaie d'énerver un peu Xavier parce qu'il est 20h30, mais on est complètement à la bourre. Mais c'est ça de recevoir aussi des invités déjà.
Avec un CV qui, comme ça.
CV qui ont joué pendant 35 ans. Du coup, on est à la bourre.
Mais c'est très jeune. Hein.
C'est pas grave, c'est l'heure du quiz, messieurs. Et je vous rappelle les règles, messieurs, 10 questions, 1 point par bonne réponse. Et ce soir, nous allons jouer en équipe. Xavier, qui le sent pas, il vient de nous le dire, va jouer avec notre invité Jean-Louis. Et Quentin fera équipe avec Léo pour répondre. Surtout Jean-Louis, vous êtes nouveau dans l'émission. Il suffit de me donner votre prénom pour prendre la main. C'est clair ? D'ailleurs, vous avez la réponse. Jean-Louis, vous appelez bien Jean-Louis. Et vous pouvez donner la réponse. Tout le monde est prêt ?
Prêt ?
Léo ?
Oui.
Prêt ? Léo qui a fait une très bonne performance la semaine dernière.
Ah, bon. Merci de le souligner.
On l'attend en tournant.
On se moquait de moi, mais merci de le souligner.
Et de 3.
Quoi ? Et de 3.
Et de 3. C'est la première question.
Et de 3. Déjà d'entrée, merci.
Ouais, Quentin, peut-être le score 3-2, 3 Marseille, peut-être, non ?
Non. Non, c'est pas ça.
Et de 3. Ben, c'est 3 le triplé ? Non, ils l'ont pas fait encore à Paris. Non.
Non, c'est pas un triplé.
Et de 3. C'est dans quel championnat ? Français ?
De 3, le
championnat italien.
Championnat italien.
La Juve ?
Non.
Oh ben, Quentin. Est-ce que c'est pas Cheikh Diabaté ?
Et voilà.
Qui a mis le troisième doublé d'affilée ?
Exactement. Exactement. Cheikh Diabaté, on en avait parlé la semaine dernière. La légende qui
il n'arrivera pas à les sauver, mais il aura fait du
Benevento, c'est ça.
C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Serie A en termes de matchs. C'est-à-dire qu'il a fait 5 matchs, il a déjà marqué 7 buts. Ouais. Donc c'est quand même incroyable.
Pour un basketteur, c'est pas mal. Hein.
Pour un basketteur, c'est très bien. Mais enfin, écoutez,
on se moque de lui. Je rigole.
Mais c'est quand même un sacré joueur et c'est une sacrée performance. Il a marqué contre la Juve. Alors malheureusement, ça ne sauvera pas Benevento, c'est vrai.
C'est un mec qui a un esprit dingue. En fait, moi, j'aime bien.
1-0 pour la paire Quentin-Léo. Et deuxième question, et de 3.
En Italie encore ?
Non.
En France ?
Alors, est-ce qu'on peut essayer de trouver quand même
Marseille 3-2 ?
Non. Allez, je vous aide, c'est en Angleterre.
En Angleterre ? C'est pas encore 3 pénaltys loupés à 7 minutes de la fin. Non, c'est pas cette histoire.
Dans les pubs.
Et de 3. C'est avec Manchester City.
En Angleterre, non.
Quentin ?
Oui.
Peut-être la remontada de Chelsea ?
Non.
Non ?
Ça aurait pu, mais c'est pas ça.
Ça concerne... Ah, c'est Giroud ?
Non, ça concerne un joueur. Ça concerne un joueur. Il est encore qualifié en Ligue des Champions. Là, ça doit vous aider.
Quentin ? Mohamed Salah ?
Oui, mais pour quelle raison ?
Ah, parce qu'ils viennent...
De 3, mais Mohamed Salah, qu'est-ce qu'il a
triplé ?
Non,
ils viennent de mettre 3 buts d'affilée.
Non.
Non,
c'est pas ça. C'est Mohamed Salah, mais qu'est-ce qu'il a fait ce week-end pour être dans le quiz ce soir ?
De 3.
Il a enchaîné son 3e but de la semaine ?
Non. Quentin ? Léo ?
Non, là, franchement, je l'ai pas.
Va falloir trouver
rapidement. Mohamed Salah ? Je vois pas à parler.
C'est en termes de trophée. Ouais, je peux pas vous donner la réponse non plus.
Ah, mais peut-être qu'il est trophée de meilleur buteur.
Non. Allez, vous l'avez pas, messieurs.
Meilleur joueur africain.
C'est pas grave, non. Messieurs, sachez que Mohamed Salah a été élu pour la 3e fois joueur du mois en première ligue. Et c'est la première fois dans l'histoire de cette compétition, donc en première ligue, qu'un joueur reçoit 3 fois d'affilée le titre de meilleur joueur du mois.
D'accord, bon.
Ça avait le coup d'être remarqué, Xavier.
Non, mais c'est bien.
Vous sentez un détuste.
On n'a pas
de tuste avec Xavier, on est emmerdé.
Même avec des tustes, c'est chaud. Parce qu'il fallait... Non, mais c'est 3 fois d'affilée,
c'est l'histoire. C'est l'histoire.
Oui, mais j'ai pas essayé.
Messieurs, on parle de joueur du mois. En Espagne, qui vient d'être élu joueur du mois? Il joue ni à Madrid, ni à Barcelone.
Quentin.
Oui.
Antoine Griezmann?
Non. Ni à Madrid, ça comprend.
Ah, ça comprend.
Léo, à l'Atlético de Madrid?
Non.
Jean-Louis. À Valence, Guedes?
Alors, c'est pas Guedes, mais il joue à Valence.
Colboussier. Ah,
c'est une passe.
Quentin.
Un joueur qui joue à Valence. Hein.
Quentin.
Mais il joue pas à Bayern.
Rodrigo.
Quentin, bien joué, Rodrigo. Ah, oui. C'est le Valencien Rodrigo Moreno, avant-centre international espagnol, et c'est la première fois pour lui qu'il est élu meilleur joueur du mois en Liga. Ça fait 2 buts à 1. À 0, pardon. À 0. On parlait d'Antoine Griezmann tout à l'heure à ma droite avec Quentin. Alors, il a encore marqué ce week-end son 13e but depuis le début de l'année. Mais qui est le meilleur buteur français des 5 grands championnats derrière Antoine Griezmann, le deuxième en fait?
Benzema?
Non. Faut le prénom. Hein.
Ah, pardon. Le deuxième.
Quentin. Florian Thauvin?
Non.
Non. Comment il s'appelle?
Le deuxième meilleur buteur français des 5 plus grands championnats européens.
C'est un plus grand championnat.
Il joue en France.
Léo, c'est Fekir.
Non, il a marqué ce week-end.
France.
Il a marqué oui, Mbappé. Non,
je peux pas vous en dire plus. Hein. Sinon, je vous donne le nom du joueur. Et puis,
Bah, qui c'est qui a marqué ce week-end?
C'est dur ce soir, vous n'êtes pas au niveau. Hein.
Non, pas du tout. Attends.
C'est mon réflexe. Bah, soyez vigilants, c'était le premier à marquer même ce week-end. Le premier but de la journée.
À Quentin? Alassane Pléa.
Oui, mais là, je peux pas plus vous aider, Xavier.
Non, mais bien joué. Bon, voilà, désolé.
Le Niçois, encore
pas,
buteur.
Je suis pas. Hein, voilà.
Encore buteur.
Il y a des
matchs
qui pas.
Oui, mais bon, 4 questions.
Moi, c'est différent, c'est 3-0. Un précoce, donc.
Non, mais là, de toute manière, j'aurais pas trouvé. Bon. Pléa, je calcule.
Voilà. Allez, ça, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est sûr. Qui a dit le PSG, ça fait rêver?
Quentin.
J'avoue aussi. Ah.
Il faut répondre.
Le Bordelais.
Non, top.
Mais oui,
Malcolm. Tant pis. Bonne réponse de Jean-Louis, il faut donner le prénom, mais c'est pas grave. C'est Malcolm qui a dit à nos confrères de Bein Sport.
Pardon, Léo, elle est
pour le
moi,
PSG, c'est le rêve. Ce sont des grands clubs qui vont toujours jouer le haut niveau. On revient au score, Xavier, Jean-Louis. Qui a dit souffrir le week-end, c'est utile?
Souffrir le week-end, c'est utile.
Ouais.
D'accord. C'est Xavier, c'est pas le latéral droit du PSG.
Si, mais ce serait mieux Meunier.
Meunier.
Non. C'est pas Meunier.
De quoi?
C'est pas Meunier.
Ah, c'est Alves. Jamais.
Daniel Alves.
Berchiche.
Daniel Alves.
Berchiche. Bonne réponse de
vous. Vous avez dit latéral droit?
Latéral gauche, pardon.
Là où c'est fait une, deux.
Latéral gauche, pardon. Mais quoi qu'il arrive, vous avez pas donné la bonne réponse.
Ah oui, mais je suis mal indiqué
non,
aussi.
Mais
donc,
non, mais attends. Bon, déjà, il a eu
la passe. Il y avait hors jeu.
Il y a déjà qui
il a dit oui.
Égalisation de la paire Jean-Louis non, Xavier.
Non, 3-2.
Oui. Ouais. Moi aussi, je ne suis pas Xavier.
Mais oui.
Faut que j'arrête de vous regarder parce que vous me... Voilà. Alors, justement, mais c'est incroyable. On dirait que vous avez les réponses, mais avant.
Berchiche.
Daniel Alves a remporté hier son 37e trophée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Et il devient le joueur le plus titré de l'histoire. Alors, messieurs, je vous demande de la concentration. Vous avez le droit qu'à une seule réponse par personne. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé de la question. Combien de titres a-t-il remporté dans sa carrière en championnat? C'est-à-dire combien de championnats a-t-il gagné?
Jean-Louis, 8.
C'est fort.
Et j'allais dire 7.
C'est très fort. Alors est-ce que c'est un peu du hasard ou est-ce que vous avez les... Est-ce que vous pouvez me donner, Jean-Louis, là ce sera encore plus fort.
Je savais que je venais, j'ai révisé mes notes.
Et oui, moi j'ai compté 7 parce que je me suis arrêté, j'étais sûr fan du Barça. Donc il en avait 6 avec le Barça, exact. Un avait la Juve et le dernier avait Paris.
Voilà, donc ça fait 8, Xavier. Ça fait pas
moi
7.
J'étais à 7, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas compté Paris hier, c'est trop récent. Là, parce que tout fait... compte fait.
Oui, bien joué.
Ah, ils sont champions.
Là vous êtes fait avoir.
Bien joué.
Qui a dit Buffon peut se retirer, il aurait évité l'élimination contre la Suède?
Xavier, Zlatan?
Non.
Xavier Ronaldo?
Non.
C'est un mec du Real?
Non. C'est un ancien joueur.
En général, les saucisses, c'est comme ça, c'est Lineker.
Non.
Quentin Cannavaro, peut-être?
Non. C'est un ancien gardien. On parle de la même confrérie.
Casillas.
Non. Il joue toujours, hein, Casillas.
D'accord. Tu peux me répéter la phrase?
Oui. Buffon peut se retirer. Il aurait évité l'élimination contre la Suède.
Jean-Louis Schmeichel.
Non. Quentin. Mais il a déjà joué contre Schmeichel. Ah. Finale mythique. En Ligue des Champions.
Quentin. Peut-être Canizares.
Non. Je vous ai donné un bel indice, ouais. Messieurs. Schmeichel, il était gardien de quelle équipe? Quelle finale ils ont gagné? Face à qui? Les anciens, là. Oh.
Mais c'était Manchester United contre, ouais, contre le Bayern. Donc c'était
Quentin. Je suis désolé. C'est, le point va à Quentin.
Et Léo, que nous on disait Quentin, mais parce que on maîtrisait pas les règles du jeu.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. De toute façon, vous l'aviez pas, messieurs. Il a fallu vous aider. Donc ça fait 4
à 3.
4 à 3. Messieurs, avant dernière question. Il pourrait bien jouer la Coupe du Monde.
Quentin. Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic qui a déclaré que... Vous l'aviez, oui, mais trop tard, Jean-Louis. Il a de grandes chances.
J'avais dit Zlatan, on n'est pas la même génération, on est moins vif.
Il y a eu clin d'œil.
Non, il n'y a pas eu clin d'œil. Ouais, messieurs, 5-3, on va s'arrêter là. Hein, victoire de Léo et Quentin. Encore une défaite, je suis désolé que vous avez de le dire. Mais encore une défaite.
J'étais pas loin. 5-5 la dernière fois sur la dernière question. Là, on a pris un mauvais départ.
Xavier, c'est la Juventus. Il y a une tentative de remontada. Et pourtant, à la fin, à la dernière minute, loin, à la dernière seconde.
J'ai dit le Bayern.
Il y a un penalty qui est sifflé. Voilà, mais c'est ça. Non, mais c'est la Juve. Un penalty sifflé à la dernière seconde.
Un penalty qui n'est pas sûr d'y être, d'ailleurs. Qui n'est pas sûr d'y être. Donc, on va pas revenir sur cette histoire.
Merci de nous avoir suivis pour cette 20e émission d'Oxyfoot. Retrouvez l'émission sur le site de la radio espritoccitanie.fr, rubrique podcast, mais aussi sur notre site partenaire footpi.fr, où vous retrouverez donc la fameuse photo et l'article de la dépêche de l'époque. Retrouvez-nous aussi sur le compte Twitter de l'émission @oxyfoot. Merci à mon équipe, Quentin, Léo, Xavier. Merci à Jean-Louis Forêt, notre invité. Merci beaucoup d'être venu à Oxyfoot. Merci aussi à Jean-Louis Arzac en régie. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission d'Oxyfoot. Bonne semaine à tous.
À bientôt.
Salut. Au revoir.